Les informations, Champion Tumba Kamanga.
Le chef milicien du FNI, Peter Karim, exige l'amnistie pour lui et ses hommes. C'est la condition qu'il pose au gouvernement avant d'accepter la démobilisation et l'intégration de ces 200 éléments au sein de l'armée nationale. La République démocratique du Congo doit passer des discours aux actes dans la lutte contre le sida. Observation de l'ONG Amo Congo à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée hier. Le gouvernement, de son côté, pointe du doigt la pauvreté et la modicité des services sociaux. Vous suivrez le ministre de la Santé dans ce journal. Étudiants et autorités académiques du centre universitaire de Badolité en vacances forcées depuis mercredi dernier. Le centre universitaire de Badolité a suspendu ses cours faute de professeurs visiteurs en provenance de Kinshasa. À la base, la suspension des vols commerciaux de Kinshasa vers Badolité. Voilà tout pour le sommet. Bonjour. 5 jours après la date prévue pour leur regroupement, aucun milicien du Front des nationalistes intégrationnistes FNI de Peter Karim n'est arrivé à Pandroma, centre d'accueil prévu pour la démobilisation ou l'intégration de ces éléments dans l'armée nationale. La localité de Pandroma est située à environ 150 km au nord de Bounia. Elle devrait accueillir depuis le 27 novembre dernier environ 200 combattants du FNI. Contacté hier vendredi, Peter Karim pose des conditions. Il exige l'amnistie pour lui et ses hommes avant d'engager ses combattants dans le processus d'intégration au sein de l'armée. Les détails avec Jean-Claude Bissiliabo.
Depuis lundi dernier, 200 combattants du FNI étaient attendus dans un centre de transit aménagé à Pandroma. Le même jour, une copie de la lettre adressée à l'auditeur général près la haute cour militaire par le ministre de la Défense lui a été transmise. Dans cette lettre, le ministre de la Défense nationale demandait à l'auditeur général de sursoir à toute poursuite contre les éléments résiduels des groupes armés en Ituri. Pour Peter Karim, cette lettre ne suffit pas. Joint au téléphone hier, il exige l'amnistie avant de libérer ses combattants vers les centres de regroupement.
Avant d'accepter mon intégration au sein des FARDC, j'ai commis beaucoup de bavures. Pour cela, je sollicite une mesure de pardon. Le jour où le chef d'état-major, Godé Soukpa, est arrivé à Kisangani pour prêter serment, il s'est retrouvé aux arrêts. Il me faut obtenir la lettre d'amnistie bien signée. Si cela arrive, il n'y aura plus aucun problème. J'accepte, je suis un colonel FARDC, mais comme l'amnistie n'arrive toujours pas, c'est pour cela que je garde mes hommes.
Contacté, le commandant des opérations militaires de FARDC en Ituri s'est réservé de tout commentaire. Selon lui, cette affaire prend une dimension politique. Il préfère que les autorités politiques au niveau du gouvernement puissent réagir. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Rappelons que le gouvernement a signé vendredi dernier à Bounia un accord de paix avec les groupes armés encore actifs en Ituri. Accord facilité par la MONUC et dans lequel le gouvernement s'est engagé à proposer un projet de loi accordant l'amnistie, mais aussi des grades aux officiers et soldats des groupes armés signataires de cet accord. Les groupes armés, de leur côté, s'engageaient à adhérer au programme de démobilisation. Et d'après un communiqué publié par la MONUC, le FNI de Peter Karim devait signer sous peu cet accord. Un ex-milicien de FAPC de Jérôme Kakwavu, transféré depuis jeudi dernier à la prison de Bounia, il s'agit d'Agenonga Ufoyuru, alias Kouicha. Le communiqué de la MONU qui a donné hier cette information signale que son transfert a été opéré par les autorités judiciaires. L'homme était arrêté la veille par la police et la MONU dans la localité de Adidi, c'est à 85 km de Bounia. Direction Bukavu, au sud Kivu, un ex-Maïmaï, le colonel Songa Kibungila, plus connu sous le pseudonyme de colonel Aigle Vert, s'est rendu jeudi dernier à la 10e région militaire. L'ex-chef Maïmaï s'est rendu avec 45 de ses hommes. Il y a un an, il refusait de partir au brassage, comme le lui demandait la 10e région militaire. Le colonel Maïmaï Aigle Vert, opéré entre le sud Kivu et le Maniema, il a refait son apparition il y a 2 semaines à Kamituga et a pris contact avec la 10e région militaire pour partir au brassage. Le porte-parole de la 10e région militaire, le lieutenant Ambroise Kassanda, salue cette reddition. On l'écoute au micro de Dieudonné Bagalois.
Je pouvais répondre à l'appel que le général avait lancé à tous les militaires qui se trouvent encore dans la forêt. Il leur avait demandé tous de venir pour se préparer à aller au brassage. C'est ainsi que le colonel est arrivé. Il vient de la forêt de Mboko. Il a 45 hommes qui sont venus avec lui. Il n'a pas précisé le nombre qui reste. Franchement, un signe positif. Maintenant, notre pays a besoin de sa reconstruction.
À Goma, Joseph Kabila était précisément à Sake, à 27 km de Goma. Il était au deuxième jour de sa visite dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon l'AFP, le président de la République a marché dans une localité de Sake presque déserte avant de s'adresser à quelques habitants et chefs locaux. Il a promis de sécuriser davantage cette bourgade. Le chef de l'État congolais a également promis une assistance matérielle à la population de Sake, éprouvée par les combats et de nombreux déplacements. D'après Vital Kamerhe, proche du président et cité aussi par l'AFP, Joseph Kabila a promis de régler la question de Nkunda, mais pas par des négociations. Le week-end dernier, Sake était le théâtre d'affrontements armés entre les forces régulières et des troupes insurgées fidèles à Laurent Nkunda. La localité a été reprise par les FARDC, appuyée par les casques bleus de la MONUC. Selon le bilan de l'armée congolaise cité par cette agence, les combats de Sake ont fait 140 morts, dont 10 soldats FARDC, sans oublier 15 000 déplacés. Joseph Kabila, selon ses proches, devrait rentrer sitôt à Kinshasa en passant par Bukavu. Il est 8h06 à Kinshasa, 1h de plus à Kindu. Vous écoutez Radio Okapi et nous poursuivons ce journal à Kindu justement, c'est dans la province du Maniema. Certains candidats malheureux aux législatives provinciales du 29 octobre dernier contestent les résultats provisoires tels qu'affichés au bureau de représentation provinciale de Kindu et rendus publics par la commission électorale indépendante. Ils ont porté l'affaire à la cour d'appel de Kindu. Reportage Tumba Mobile.
Il s'agit des candidats malheureux des circonscriptions électorales de Kailo, Kasongo, Kindu et Pangi. En effet, pendant que les résultats provisoires sont en train d'être rendus publics, quatre dossiers sur le contentieux électoral du 29 octobre dernier, correspondant à ces quatre circonscriptions, sont déjà déposés à la cour d'appel de Kindu depuis jeudi dernier. Selon le greffier de cette cour, qui nous a montré les noms des circonscriptions sur chaque dossier, celui-ci contient plusieurs candidats et les griefs sont différents, a-t-il dit. Interrogé sur les noms de ceux qui réclament et ceux qu'ils reprochent à la CI, le greffier, d'un ton sec, a dit tout simplement, je cite, « Vous le saurez à temps opportun », fin de citation. De Kindu, Rigobert Imandwani Walumba, Radio Okapi.
Vous avez compris que ce reportage de Tumba Mobile a été rendu par Rigobert Imandwani. Volet santé, stop sida, tenons nos promesses. Tel est le thème retenu cette année pour la lutte contre le sida. Ce thème était sur toutes les lèvres hier lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida. En RD Congo, les statistiques établies par le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida à la fin de l'an 2005 estiment aujourd'hui le taux de la séroprévalence entre environ 5 et 4% pour la ville de Kinshasa. Et actuellement, le sida est en train de se développer plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Pour le docteur Henri Mukundi, directeur national d'Amo Congo, la RDC doit passer des discours aux actes.
J'ai demandé au gouvernement congolais de considérer le sida comme priorité des priorités, pas comme slogan politique, mais réellement comme un engagement avec pied, tête, tout là-dedans. Donc chacun doit tenir ses promesses à son niveau. Évidemment, nous voyons l'État en premier, et si l'État est catalyseur, et je pense que tout le monde pourra faire chemin. On est passé peut-être de l'étape zéro à l'étape première vitesse, mais il faut arriver à la quatrième vitesse pour rouler complètement la voiture. Mais il reste encore beaucoup de stigmatisation et beaucoup d'opprobre dans la communauté. Le Congo démocratique s'est engagé dans le Conseil des Nations Unies à accroître aussi son financement dans la lutte contre le sida, mais malheureusement, le Congo démocratique n'a pas réalisé cela jusqu'à l'année passée.
De son côté, le ministre de la Santé, Zachary Kachongwe, pense plutôt que le sida en RDC est un problème lié à une extrême pauvreté et aux difficultés des services sociaux.
Mais le sida seul ne pourra jamais être la priorité nationale, parce qu'on ne sait pas arranger le sida si on n'a pas arrangé la route. On ne sait pas arranger le sida si on n'a pas arrangé les hôpitaux. On ne sait pas arranger le sida si on n'a pas amélioré le personnel. C'est pour ça que nous parlons d'une lutte multisectoriel. On n'a pas encore atteint le seuil qu'il faut. Il faut que dans la République qui commence, on continue à mobiliser suffisamment de ressources, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Enfin, l'État, au niveau national, doit tenir ses promesses. Et ses promesses consistent ici à augmenter le budget pour permettre de financer les services.
C'était le ministre de la Santé, Zachary Kachongwe, un dossier signé Karine Kakassi. À Kalemie, dans le nord Katanga, on a aussi célébré hier la Journée mondiale de lutte contre le sida et sous le même thème qu'ailleurs, une dizaine d'associations des mamans ont défilé dans la ville devant le commissaire de district. Cette journée a été surtout marquée à Kalemie par l'ouverture d'une clinique de dépistage volontaire. La clinique est l'œuvre de l'ONG Amo Congo, en vue une ONG congolaise spécialisée dans la lutte contre le sida. À cette occasion, une quinzaine de volontaires se sont présentés au test. Reportage Idelfonse Kitenge.
Peu après la rencontre de réflexion tenue à l'hôtel du lac, à l'intention d'une centaine de participants, le responsable de l'ONG Amo Congo a convié toute la population au dépistage volontaire. En cette occasion, 14 volontaires se sont présentés au test. Ils ont pu avoir connaissance de leur sérologie et bénéficier d'un encadrement psychosocial, comme l'explique l'un d'eux.
Pour moi, j'ai pas peur peut-être de la part de mes amis, parce que c'est ma deuxième fois d'arriver ici. Parce qu'il y a pas seulement des gens de test, mais il y a aussi des conseils qu'on donne aux gens. Voilà ce que je peux dire à mes amis qui ont peur de venir ici.
Pour le responsable de cette ONG de lutte contre le sida, les personnes ne connaissant pas leur sérologie pourraient être des courroies de transmission du VIH-Sida, d'où l'importance du dépistage. Docteur John Matunga.
Commencer à protéger les personnes qui ne sont pas encore contaminées, tout en donnant aussi la chance ou l'espoir de vivre aux gens qui sont déjà contaminés.
En l'espace de 9 mois, le centre de dépistage volontaire de Kalemie a reçu environ 1500 volontaires, dont une centaine vivant avec VIH-Sida. De Kalemie, il défend Skitenge Maïboué pour la radio Okapi.
Pendant ce temps, à Kisangani, le pourcentage des personnes infectées par le virus du sida se maintient à 6% en province orientale. La situation reste préoccupante selon le programme national de lutte contre le sida, PNLS, province orientale. Les derniers chiffres enregistrés dans la localité de Nessou, située à 32 km d'Issiro dans le Haut-Touélé, sont tout de même encourageants. Dans cette localité qui avait le plus fort taux de prévalence de la province il y a encore 2 ans, la séroprévalence est passée d'environ 7% à 4% en septembre 2006. Les mouvements de population expliquent cette différence, selon le docteur Théodore Hassani, médecin coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le sida. On l'écoute au micro de Xavier Faray.
Le point Isiro s'est révélé comme un coin potentiellement minier, avec l'exploitation de plusieurs carrières d'or et de diamants. Ce qui avait créé un afflux de la population vers ces milieux-là. Et quand il y a afflux, vous conviendrez avec moi, il y a promiscuité, il y a des phénomènes sous-bâche, il y a tout ça avait contribué à ce que la maladie puisse encore s'étendre rapidement dans cette communauté-là. Et en 2005, malheureusement, toutes ces carrières-là sont en chute, comme on l'a dit là. Et la population a commencé à quitter Isiro. Alors les études qui sont parties en 2005 ont trouvé vraiment la population autochtone. En faisant ces études-là, c'est la population autochtone. On a découvert qu'il y avait à peu près une chute de la séroprévalence. De 6,7, l'année 2005, on était à 4,1.
Province de l'Équateur, suspension des cours depuis mercredi dernier au centre universitaire de Gbadolité, 1 mois et demi après le début de l'année académique. À la base de cette situation, l'absence des professeurs visiteurs qui doivent venir de l'Université de Kinshasa, faute de vols commerciaux sur Gbadolité. Ce centre universitaire en est à sa première année d'existence. Les autorités académiques et les étudiants sont en vacances forcées et ils tournent les pouces en attendant que les compagnies aériennes qui exploitent la ligne Kinshasa-Gbadolité reprennent les vols. Monsieur Cissé, secrétaire académique de cette institution, explique la situation au micro de Daniel Tambinzoni.
Bon, nous sommes arrivés à ce stade parce que les avions ne viennent plus à Gbadolité. Il n'y a que les avions de la Monique qui viennent. Alors, nous n'avons pas de possibilité pour faire venir les professeurs de l'Université de Kinshasa qui sont chargés de cours au centre universitaire. C'est pour cela que les cours que nous avons commencés avec le professeur Mbolo Kala et le professeur Nzegue sont terminés. C'est pour cela que nous avons suspendu les cours. Avant, nous avons écrit au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. William Singh, pour lui demander une aide humanitaire en faveur du centre universitaire pour accepter à bord des avions de la Monique les professeurs de l'Université de Kinshasa qui viennent pour les enseignements au centre universitaire.
Page internationale, le premier ministre français Dominique de Villepin s'est promené hier vendredi dans le township de Soweto, berceau historique du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, où il s'est rendu notamment pour évoquer les défis de l'Afrique face à la mondialisation. La première tempête de neige de l'hiver aux États-Unis a frappé les États du Middle West vendredi, causant la mort d'au moins 8 personnes, des coupures d'électricité pour plus de 2 millions de foyers et commerces et la fermeture de milliers d'écoles. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de journal. Merci à Emmanuel Imbanda qui est à la coordination et Sylvain Baougouré pour la mise en onde. Moi, c'est Jean-Claude Toumba Kamanga. Je vous dis merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.